devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement. Why, where'd you go?
Woke up to find you warmly by my side. You woke up and melted through the night.
Salut à vous, vous êtes bien dans l'actualité des luttes sur Radio FPP 106.3 FM. Aujourd'hui, on écoute les copains de la revue Nunatak. Nunatak, c'est une revue d'histoire, de culture et de lutte des montagnes. Voilà ce qu'il y a écrit sur la couverture de Nunatak. Nous désirons aussi chercher des moyens de concrétiser notre opposition au monde tel qu'il se présente à nous. Dévier du sentier balisé des flux de la marchandise et de l'autorité, nous attaquer à ce qui nous sépare les uns des autres, nous plonger dans les histoires que racontent les ruisseaux, les êtres, les arbres ou les rochers. C'est une très belle revue, avec de superbes illustrations, qui a déjà publié pas mal de numéros, au moins 5 je dirais, et qui est vraiment super belle, qui traite de sujets assez peu connus, que ce soit sur la question du tourisme dans les montagnes, du travail saisonnier, de l'agriculture ou des éleveurs qui sont coincés par les normes et pressurisés par le système capitaliste. Des luttes aussi à l'étranger. Il y a par exemple dans le numéro 1, un article sur la frontière entre l'Iran et l'Irak, une lutte contre un projet d'extraction minière au Pérou. Il s'intéresse particulièrement à la problématique des frontières et des migrants, qui sont nombreux maintenant à traverser la montagne, mais aussi sur la problématique du tourisme qui crée une économie dans les régions montagneuses. Voilà. Et dans cette émission, c'est en partie le tourisme qui va animer notre discussion. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on a rencontré les gens de cette revue, dont vous pouvez consulter les articles et les numéros en ligne sur le blog Revue Nunatak. Nunatak, Nunatak, noblog au pluriel, .org.
Drifting on.
Et ça se passe dans le joyeux local de lutte anticapitaliste de l'Astragale, au 21 rue Pierre-Sémard, à 7.
C'est une revue alors, à laquelle participe, donc, qui est faite par un collectif de personnes assez diverses à la fois dans peut-être leur profession, leurs activités, tout ça, et aussi géographiquement. Donc là, nous quatre, on est dans les Cévennes et l'Aveyron, mais il y a donc des personnes aussi qui sont dans les Vosges, dans les différents endroits des Pyrénées et puis dans les Alpes du Sud. C'est une revue qui existe depuis donc, le premier numéro, le numéro 0. On l'a sorti il y a 2 ans et demi. Et c'était... Donc l'idée nous est venue parce que... en fait, Niatak, c'est un peu la petite sœur d'une autre revue qui existait déjà depuis plus longtemps, qui a été créée en 2005 en Italie, donc en italien, dans les Alpes italiennes. Donc les Italiens, c'est une revue qui a été créée donc en 2005, qui a été à l'initiative d'un groupe qui avait été actif dans les luttes contre donc dans le Val de Suse contre le train à grande vitesse Lyon-Turin et contre dans l'opposition aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin de 2006. En fait, c'était en 2015, ouais. Ils ont fait une petite tournée en France. En fait, ils avaient pour aller voir des gens qu'ils connaissaient déjà plus ou moins, et ils cherchaient des gens qui puissent traduire leur revue en français. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient à passer un peu la frontière, quoi, avec la revue, qu'ils avaient des contacts aussi en France, parce que voilà. Et du coup, ça, suite à cette petite tournée, là, il y a eu un collectif qui s'est constitué, qui était intéressé par la démarche, en tout cas des Italiens, mais qui a décidé de ne pas traduire leur revue, mais de faire une revue à part entière, dont la démarche est largement inspirée de la revue italienne. Et enfin, on peut voir même, c'est le même nom, le même format, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées de leur revue. Mais voilà, on ne voulait pas faire une traduction. Il y a dans une attaque en français des articles qui sont traduits de la revue italienne. Il y a une filiation, quoi, entre les deux revues, mais les deux rédactions sont indépendantes, quoi, on va dire. Et il y a même maintenant, dans les derniers numéros de la revue italienne, ils ont repris des articles, enfin, ils ont traduit des articles en italien que nous on a publié en français. Vous voulez dire autre chose?
Ben, c'est un peu le retrouver autour de cette idée de revue d'histoire, culture et lutte des montagnes pour parler à partir de là où on habitait. De sujets assez larges, assez variés, sans refaire une énième revue de critique sociale ou je sais pas quoi, qui serait lue toujours par les mêmes personnes et qui parlerait pas forcément à nos voisins et voisines. On a trouvé dans ce format-là un moyen de, surtout aujourd'hui, enfin on peut le dire aujourd'hui, ça marche plutôt bien, de rencontrer, d'avoir des débats avec les gens là où on habite, de se retrouver sur des réalités partagées ou je sais pas quoi.
Il y a peut-être quelques précisions. Donc à la base, on n'était pas du tout une bande de copains ou des gens qui se connaissaient forcément très bien. Ouais. On s'est rencontrés parce que les Italiens ont fait cette tournée de présentation et c'est ça qui nous a fait se rencontrer, même si voilà, donc des gens des différents endroits, des Pyrénées, des Cévennes et des Alpes. Et aussi, il y avait... il y a l'intérêt qu'a provoqué cette revue en italien, en tout cas, c'est qu'il y avait un vide complet dans les zones montagneuses, on peut dire, de littérature critique. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'écrits, d'érudits un peu inaccessibles, en fait, hein, soit des écrits historiques, sociologiques, mais qui sont, on va dire, réservés aux universitaires, ou alors essentiellement des magazines de sport, quoi. Il y a Montagne Magazine... Ski Magazine, etc. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas des écrits qui approchaient un peu les espaces dans lesquels on habitait de manière critique, c'est-à-dire qui remettaient en cause, pour faire vite, quoi, le capital et l'État dans les zones de montagne. Donc c'est aussi sur ce vide-là où on s'est dit qu'il y avait vraiment un intérêt à diffuser une littérature un peu plus critique. Ouais.
Parce que ouais, c'est ben, le groupe un peu de départ de Lunatech, sur, donc, comme tu disais, c'était pas des gens qui... C'était pas un groupe affinitaire, en fait, à la base. Mais après, c'était quand même des personnes qui avaient été, de différentes façons, à différents degrés, impliquées dans des luttes sociales, peut-être dans des milieux plus militants, et quand on voyait aussi un peu certaines limites et certaines impasses d'entre-soi et de se parler qu'à soi-même un peu, et d'avoir même un langage, des codes, un format qui était assez opaque, on va dire. Dans ce que témoignaient les Italiens de... Parce que bon, voilà, quand ils sont venus, ils avaient quand même 10 ans déjà de recul un peu sur la diffusion de cette revue, et du coup, enfin, en tout cas, ça nous a parlé, quoi, ce truc de... Donc à la fois dans le format, papier, graphique, tout ça, et dans la façon dont c'est écrit, dans la diversité des sujets abordés... on y voyait aussi une piste pour sortir de, enfin pour réussir à parler plus largement autour de nous, un peu à tout un chacun. D'ailleurs, on n'a pas parlé des sujets abordés dans la revue.
Donc on est parti sur de récupérer un peu le titre et le sous-titre, donc histoire, culture et lutte des montagnes. C'est pas qu'on a quelque chose à défendre spécifiquement en montagne ou qu'on aime absolument la montagne comme un espace à préserver, etc. C'est pas tellement ça le propos. Ce qui nous a animés, c'était qu'on considère qu'on habite dans des zones malgré tout montagneuses, et que de faire une revue qui parle de la montagne, ça permettait, comme l'a dit Quentin, de la diffuser à nos voisins qui accepteraient peut-être moins une revue anarchiste ou communiste. Voilà. Et dans cette revue donc d'histoire, culture et lutte des montagnes, on aborde tout un tas de sujets qui vont des histoires locales, par exemple les bandits, les contrebandiers, les différentes hérésies qu'il y a pu avoir dans ces zones de refuge que constituaient les montagnes, que ce soit les camisards, les vaudois ou les cathares. De parler de tout un rapport à la faune, à la flore qui est aussi particulier, donc tous les métiers liés au pastoralisme, à la paysannerie de montagne... le rapport aux animaux et à la flore. Il y a aussi des articles donc, qui relatent des mouvements de révolte passés, par exemple la guerre des demoiselles, qui est une insurrection paysanne en Ariège, suite à l'établissement du Code des forêts, ou alors des mouvements de lutte plus actuels. Il y a un article dans le numéro 0 sur la lutte contre la très haute tension dans la vallée de la Durance, qui est une vallée qui va de Gap à Briançon. Ou sur les questions de la frontière, par exemple, dans les numéros précédents, on a publié quelques textes sur les mouvements de solidarité avec les migrants, notamment dans les Alpes. Quoi. Il y a aussi des articles un peu plus, on peut dire, théoriques, quoi, de réflexion, notamment sur le tourisme ou sur d'autres sujets, donc essayer un peu d'amener une critique un peu poussée sur ces thématiques-là. Et oui, donc il y a aussi bien des articles qui ont plus une forme, on va dire... d'articles, quoi, un peu journalistiques ou universitaires. Il y a aussi des récits. L'autre chose qu'on a pas, c'est qu'on n'est pas du tout des experts des questions abordées. On est très peu à avoir fait des facultés de sociologie ou je sais pas quoi. Pour la plupart, on est berger, bergère, saisonnier, saisonnière, ouvrier, chômeur, etc. Quoi. Donc on n'est pas du tout experts des sujets qu'on amène.
Quand on se place pas avec un regard d'universitaire ou de journaliste, enfin, ce qu'on n'est pas en fait.
Et comment vous choisissez les thèmes, alors, en particulier en Amérique du Sud par exemple, vous choisissez comment les thèmes?
Les articles qui ont été publiés, tu veux dire, oui. Par exemple, oui. On va en venir un peu plus tard peut-être sur le fonctionnement de la revue, mais c'est soit des articles qu'on nous propose, soit des articles qu'on écrit nous, et sur des intérêts en fait qu'on a pour tel ou tel mouvement ou telle ou telle région. Ah oui, donc une catégorie que j'ai oubliée, c'est qu'il y a aussi des articles, on ne se cantonne pas à une montagne en particulier, on n'est pas du tout dans dans une pensée régionaliste ou quoi. Bon, on s'en fout un peu des particularités régionales, on peut dire. Et on s'intéresse aussi à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a autant bien des articles sur des luttes contre l'extractivisme en Amérique latine que sur le Kurdistan, etc.
Peut-être pour répondre plus précisément à ta question, je dirais qu'il y a plusieurs... les articles, ils arrivent dans une attaque par différentes façons. Il y a des articles qu'on nous propose, pas mal, que ce soit dans des moments, par exemple, de présentation publique comme cela, où on nous parle de quelque chose, et puis que voilà, ça il y a des... Voilà, on se rencontre, on en parle, on travaille ça ensemble. Il y a des articles qui sont écrits plus par des personnes qui participent, qui sont impliquées dans la revue et qui sont issues de discussions qu'on peut avoir, donc, parce que on a des rendez-vous réguliers où on se retrouve tous pour discuter un peu de tout ce qui touche à la revue. On a des articles qu'on traduit, qu'on pioche dans les revues italiennes et qu'on traduit. Et puis il y a quelquefois des republications d'articles qui ont déjà été publiés, mais pas forcément sur des supports qui avaient eu une large audience. Par exemple, on ne republiera pas quelque chose qui est sorti par exemple dans le monde diplomatique, parce que ça a une audience qui nous dépasse de toute façon. Mais il y a des. Par exemple, on a republié des trucs d'une revue qui s'appelle Transhumance, qui était une revue qui était publiée diffusée dans Briançonnais dans les années 80 et début des années 90, et qui avait une diffusion relativement confidentielle on a déjà pioché dedans parce qu'il y a des articles qui nous parlent toujours aujourd'hui et qu'on pense à l'intérêt de leur redonner un peu une visibilité.
Et puis quand je te disais tout à l'heure que je ne savais pas si on était entre 20 ou 30, c'est la particularité de cette revue, enfin, en tout cas que je considère une particularité, c'est que c'est une revue collective, donc on n'a pas de comité rédactionnel ou de directeur de publication, etc., et ouverte à participation. Et même les rencontres qu'on fait, donc ces fameux week-ends de rencontres, quoi, ils sont ouverts aux personnes intéressées pour participer à la revue. Ce qui fait que voilà, on est entre 20 et 30 personnes autour de la revue.
Le choix des sujets, il se fait. Ouais. Il y a une ligne politique, il y a quelque chose. Comment vous arrivez à vous mettre d'accord sur un choix sur
Ça a été en dehors de... Cyril disait tout à l'heure de critique de l'État et du capitalisme dans les milieux où on habite ou quoi. En fait, c'est la seule ligne partagée. Ouais, en dehors de cette sorte de base, il n'y a pas d'accord commun sur comment on va traiter tel ou tel sujet. Il n'y a pas d'accord préétabli sur un thème ou une problématique.
D'accord. Ouais. Vous voulez compléter ? Oui, juste qu'on parlait effectivement de l'autorité de l'État ou de l'État dans ces zones-là. Et à un moment donné, moi, quand je propose un article sur les barrages et sur la fin des concessions et le projet ou l'injonction européenne d'ouvrir à la concurrence ces barrages, on parle des grands barrages, là, ça devient un sujet qui a été intégré dans la revue. Moi, je n'avais aucune idée que ce sujet-là forcément intéresserait la revue.
D'accord, oui.
C'est juste pour parler d'une expérience d'intégration d'intégration entre guillemets dans la revue, quoi.
Je disais qu'il n'y a pas de ligne politique dans une attaque, on ne veut pas en avoir, on ne souhaite pas en avoir. Après, il y a une base politique commune, je dirais assez large, comme je disais tout à l'heure, qui est, voilà, on peut dire anticapitaliste et anti-autoritaire. Ouais, okay. Après, chaque sujet, il est discuté, on lit les textes, on prend le temps. C'est arrivé qu'on retarde la publication d'un texte, enfin, plutôt que de le mettre dans le numéro qui était prévu, on le met dans le suivant parce qu'en fait on veut prendre le temps de plus discuter l'article, peut-être le travailler. Voilà, c'est pas impossible que sur un même sujet il y ait un article dans un numéro puis un article dans un numéro d'après qui n'ont pas le même parti pris, enfin, on souhaite plus nourrir des réflexions, des questionnements, affirmer des trucs très forts, même si c'est une revue politique, on affirme des choses politiquement aussi. On est toujours un peu sur un truc où on n'a pas de ligne politique et en même temps
Mais oui, c'est une revue politique.
Ça l'apporte beaucoup dans la discussion aussi, par exemple sur la, toutes les thématiques liées à l'histoire notamment, où on a eu des grandes discussions parce que il y a tout un tas de processus d'idéalisation, de mythification, par exemple des communautés montagnardes, etc. Et qu'on voulait aussi réfléchir à ça ensemble et que ces réflexions-là, elles alimentent la manière dont on va rédiger tel ou tel article sur, sur ces sujets-là, hein, par exemple. Quoi. Mais que c'était pas une ligne de base, enfin, oui, dire, un truc qu'on a posé ensemble, mais c'est un truc qui est en, en évolution.
Ben, un truc qui est de fait plutôt partagé, c'est un, une sorte d'attachement à ne pas lisser les contradictions, à plutôt les mettre en lumière ou je sais pas, les présenter comme elles sont. Après, il y a des articles où ça va être très, plus tranché que d'autres ou quoi, sur, sur le fond ou la forme.
Ça vous est arrivé de rencontrer des gens, parce qu'il y en a des gens qui connaissent bien le, leur coin, quoi, par exemple les Alpes, la Savoie, il y a des fois des gens qui racontent toute une histoire, même de, leur, de leurs parents, grands-parents. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des gens qui, enfin, autour de discussions, en fait, qui vous racontent un petit peu leur, leur lieu de vie, quoi, en fait.
On fait, quand même, on fait beaucoup de moments de présentation là, comme ceux-là, parce que c'est ce qu'on souhaite avec la revue aussi, c'est que ça crée la rencontre, ça crée, voilà. Et du coup, enfin oui, ça, ça, nous, ça crée des rencontres enfin, où il y a un peu de tout aussi, quoi. Enfin, et du coup, où c'est assez... enfin oui, on va avoir des gens qui habitent depuis toujours à un endroit et qui ont plein de choses à raconter sur... sur l'évolution de chez eux, de plein de choses, des gens qui sont fraîchement installés à la montagne, qui viennent de d'autres milieux complètement différents, enfin, de gens qui sont partis puis revenus, enfin, il y a... Oui, enfin...
Justement, en fait, avec les gens, enfin, les gens qui habitent dans les régions montagneuses, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'endroits, j'imagine, qui sont... qui vivent, enfin... Il y a, des, il y a des, villas, des villes et des villages en montagne qui ne vivent que par le tourisme, le sport d'hiver, les choses comme ça. Quoi.
Et, beaucoup.
Oui, beaucoup. Et du coup, vous arrivez à avoir des discussions avec les... parce que les sports d'hiver, tout ça, 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 ça crée de l'emploi pour les saisonniers, enfin pour les... Quoi, je ça. Et c'est quoi votre... votre... votre audience dans cette... parmi cette population-là, qui est quand même majoritaire, j'imagine. Enfin, j'en sais rien.
Ouais, bah, après, il y a plein de gens qui viennent du tourisme et qui, mais qui portent pas un discours homogène non plus sur le tourisme. Enfin,
ouais. Et puis nous-mêmes, on a envie, enfin, en fait, tout simplement.
Hein. Moi, je suis Berchman l'hiver. Hein.
Oui, ben voilà. Donc, non, mais c'est ça. Il y a, du coup, il y a un espèce de paradoxe qui doit, enfin, espèce de paradoxe qui doit être. Enfin, des contradictions à gérer quand même, c'est pas un truc qui doit pas être très facile.
Mais ça nous empêche pas d'avoir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est paradoxal. Et, enfin, c'est ouais, on nous dit souvent, mais comment vous faites pour toutes ces contradictions et tout ça. Mais pour moi, c'est pas forcément un problème. Enfin, je critique le travail, mais oui, de mais manière générale. Mais je suis bien obligé de travailler parce que sinon, ben, je galère et tout ça. Et du coup, ben, que ça soit dans le tourisme ou l'usine ou je sais pas quel truc dégueulasse. Ben, dans tous les cas, il y a cette contradiction là. Et après, c'est vrai que la question du tourisme, elle est particulière dans certaines zones, c'est-à-dire que c'est quand même une monoactivité, c'est-à-dire que c'est comme si à 7 il y avait que du poisson, enfin, que tout le monde travaillait dans le poisson, quoi. Enfin, du coup, c'est, donc, c'est un exemple un peu, voilà, un peu grossier, mais c'est, il y a dans ça, dans beaucoup de zones des Alpes, des Cévennes, etc. C'est quand même 90% du, bon, gros mot là, du PIB là, de la richesse qui est produite, c'est le tourisme. Quoi.
Mais comme ça a pu être à des endroits avec certaines industries, enfin, qui étaient mono. Qui avait le
oui, mais c'est vrai.
Enfin, que c'était le charbon à certains endroits ou d'autres, où une fois que ça se casse la gueule.
Mais du coup, est-ce que ce discours, le discours que vous tenez, est-ce qu'il est largement entendu, comment il est reçu par les. Mais c'est un peu ça le sens de ma question. Parce que la contradiction qu'on peut vivre individuellement, elle est là. Enfin, je veux dire, on est tous dans ce cas-là, en fait. Enfin, mais comment ce discours-là, il est reçu par. Je sais pas, enfin, c'est ça la question. Bah, vous êtes considérés comme des ennemis carrément ou
bah, ça va dépendre un peu, je dirais, des personnes, mais Mais globalement, il y a ce truc-là. On a fait des présentations genre spécifiquement sur la question du tourisme, qui était axée là-dessus. J'en toucherai deux mots après, peut-être du contenu qu'on amène lors de ces discussions. Mais où c'est sûr que la plupart des gens le prennent quand même sur la défensive, c'est-à-dire qu'on on s'attaque au gagne-pain, à ce qui fait vivre une bonne partie des populations locales, quoi. Et du coup, c'est sûr que c'est toujours un peu que c'est pas un sujet évident non plus à critiquer. Après, sur le tourisme, on a des positions qui sont pas forcément entendables pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on je vais annoncer vite fait les quelques réflexions qu'on amène, mais qu'on pourra discuter. Mais on fait pas la. Enfin, il y a la critique du tourisme de masse qui est quand même assez largement admise, quoi, où tout le monde trouve ça dégueulasse, les grandes stations de ski, les plages bondées, blablabla. Enfin, il y a une critique un peu. Qui est admise, on peut dire, quoi. Et face à ça, il y a le développement de l'écotourisme, du tourisme solidaire, de tout un tas de noms qu'on. Tourisme responsable, etc. Dans une attaque, notamment dans le numéro 2, là, qui est le numéro orange, il y a plusieurs articles sur le tourisme, on pose clairement que pour nous, c'est deux faces d'une même industrie. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le tourisme de masse, quoi, qui est une industrie lourde, et l'autre versant, qui est le versant vert, le tourisme écologique responsable, qui va permettre de ramifier encore plus l'exploitation touristique. C'est-à-dire que dans la moindre des fermes, on va pouvoir faire de l'éco-camping, que la moindre maison en campagne peut être rénovée pour faire un éco-gîte rural, qu'on peut vendre des balades en vélo électrique parce que c'est vert et sustainable, qu'on peut faire des balades en 4x4 dans les Asturies, par exemple, une région d'Espagne qui traverse le parc national des Asturies en 4x4, et c'est du tourisme éco-responsable.
Ah ouais.
Et du coup, d'amener un peu ce premier constat, quoi. La deuxième chose qu'on pose, c'est que le tourisme fait système, que c'est un système économique à part entière, qu'il est organisé. Il y a un côté libéral qui tend à faire oublier qu'il y a des plans financiers de plusieurs milliards d'euros, que ce soit les différents plans neige, les subventions aux stations de ski pour faire de la neige artificielle, etc. Donc, qui est une industrie organisée par l'État. Et que dans ce système touristique, c'est pas à nous de décider si on peut être touriste ou voyageur, mais que c'est bien un rôle qu'on nous assigne, c'est-à-dire que dans un système économique capitaliste qui utilise le tourisme pour comment dire ressourcer sa main d'œuvre, quoi. Bon, la seule forme de voyage ou de découverte qu'on peut avoir, c'est le tourisme, parce qu'on est bien dans ce système touristique. On pourra en discuter.
Que c'est pas des choix individuels en fait qu'on aimerait critiquer du comportement du touriste qui salope tout sur son passage et qui est pas attentif aux réalités locales ou je ne sais quoi même si je suis à Saint-Jean-du-Gard, l'été c'est affreusement touristique, je vais être le premier à râler sur des trucs mais en fait, je vais partir Saint-Jean-du-Gard parce que j'en ai marre et je vais aller faire le touriste ailleurs. Ouais. Parce que les endroits que si j'ai envie de les découvrir et que je connais personne et que je connais pas, il y a tout qui est mis en place pour que je me comporte, enfin pour que je sois touriste en fait. Je peux pas tant y échapper et que. En plus, il y a un discours qui tend à être un peu méprisant sur notamment sur le tourisme de masse. Les gens qui vont se serrer comme des sardines sur les plages pour aller cramer au soleil, je ne sais quoi, et qui s'apparente un peu à du mépris de classe souvent dans le truc de c'est prolo débile qui vont aller faire comme tout le monde dans les aqualandes ou je ne sais quoi. Et sans prendre un peu de recul et voir un tout plus d'ensemble où ça fait partie en fait c'est des congés payés il faut ça en fait pour pouvoir retourner au turbin derrière la tête un peu reposée et du coup on cherche pas à attaquer des comportements individuels et on cherche pas à attaquer le touriste en tant que même des fois on voit les autocollants touriste homme et qu'en fait c'est que le tourisme c'est la forme que prend le capitalisme à certains endroits.
Oui, non, mais c'est
la forme dominante du capitalisme, on va dire. Enfin, moi, là où je travaille l'hiver, c'est... si la station ferme, il y a 80% des gens qui n'ont plus leur boulot. Enfin, et du coup, ça demande à réfléchir le truc en disant juste. Enfin, pas de dire juste, bon, bah voilà, le tourisme, c'est de la merde, c'est dégueulasse tout. Oui.
Il y a un peu un truc d'affirmer qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un backpacker ou quelqu'un qui va prendre son sac à dos et aller faire l'Amérique latine ou je sais pas quoi, et une famille qui va pas la vaste les flots passer la semaine quoi. Certes c'est différent, mais ça fait partie d'un même mouvement quoi. Et que ce backpacker qui va en Thaïlande ou je sais pas où est pas moins touriste que quelqu'un qui va skier dans je sais pas quelle station des Alpes ou qui va à Palavas bronzer un coup quoi.
Donc sur la question touristique, c'est un peu ça les questions qu'on se pose, puis surtout le truc qui est central quand même quand on parle du tourisme, c'est la division entre les loisirs et le travail hein, que ce soit deux périodes bien séparées et que l'une permet d'entretenir l'autre. Et donc ce qu'on dit souvent quoi, c'est que le problème c'est pas le touriste quoi, enfin, c'est pas le fait d'aller à un endroit pour se ressourcer, c'est bien le mode de production économique dans lequel on se trouve, hein, qui est le capitalisme, et qui organise tout ça. Du coup, c'est bien à replacer la problématique, quoi. Et puis, y a tout un tas de luttes, en plus, en ce moment, dans des grandes villes, hein, comme Venise, Barcelone, et donc d'opposition sur Airbnb, oui, et 7, et au Grand Navi, là, à Venise, etc. Et avec un truc, tu vois, qui est vraiment centré sur les effets du tourisme, quoi, on peut dire la dépossession matérielle des lieux, le fait que, on peut plus se loger dans des quartiers de Barcelone parce que c'est tout pour les touristes, etc. Ou alors à Venise sur les grands bateaux qui vont saccager les fondations, tout ça. Et du coup, qui se focalise vraiment sur la problématique touristique qui pourrait être régulée ou qui pourrait y avoir que l'État pourrait faire quelque chose, bidule machin, mais sans s'attaquer vraiment au problème fondamental qui est le capital, quoi. Comment on exploite des gens pour en enrichir d'autres, comment un territoire il peut être découpé en un parc naturel régional d'un côté, un parc national de l'autre, et une vallée saccagée au milieu, parce qu'en fait c'est un zonage quoi, du territoire. Quoi. Du coup, c'est à cet ensemble-là qu'on veut s'attaquer, pas juste à ce qu'on appelle le tourisme. Quoi.
No axes, swords, no picks. I'm bound astray with this people day with 100 Turks invented words. back in the big rock candy mountain.
Vous écoutez l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
Du coup, les gens qui vivent en montagne, d'autres choses que du tourisme, vous pouvez les rencontrer.
Il y en a encore.
Oui, il y en a encore, il y a plein d'éleveurs.
Bah, oui, après, ça dépend comment. Est-ce que le pastoralisme aujourd'hui a rien à voir avec le tourisme ? C'est ce genre de questions que ça pose, du coup. Est-ce que quand on travaille dans des usines de produits du terroir, on n'a rien à voir avec le tourisme ? Je sais pas.
Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, là, on est quatre, mais il y a une grosse partie de la rédaction qui n'est pas là, mais il y a une grosse section FNSEA dans la bibliothèque. Non, c'est une blague, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bergers, bergères, paysans, paysannes. Mais oui, qui sont aussi même surreprésentés parmi nous. Et oui, comme dit Quentin, quoi, sur par exemple la question du pastoralisme, bon, les bergers, c'est très sympathique, surtout pour être pris en photo, quoi. Mais en vrai, leur utilité elle est surtout paysagère, quoi. Tu vois comment l'ONF va subventionner, comment les parcs régionaux vont subventionner ces métiers-là qui, au fait, sans ces subventions, juste n'existeraient
pas, quoi. Et c'est des métiers qui n'existeraient pas sans ces subventions-là ?
Bah, par exemple, sur le Larzac, en ce moment, ça fait un an, je crois, le parc régional des Grands Causses est en train de lancer un appel à ce qui est un berger ou une bergère sur le Larzac, qui, clairement, ne servira à rien. Il pourrait rester chez lui et être payé au SMIC, ce serait exactement la même chose. Il servira absolument à rien. Par contre, ce sera sympa, on pourra prendre un selfie avec lui quand on passera sur le chemin et qu'on le croisera en train de garder un troupeau dans un parc clôturé, parce que sur le Larzac, il n'y a aucun endroit qui n'est pas enclosé. Quoi. Il n'y a pas d'alpage. Et encore, dans les alpages, même s'il y a une réalité, il y a une nécessité de... garder les troupeaux, etc. Si encore plus si t'es dans la production laitière, etc. Mais en même temps, t'as aussi cet aspect-là où c'est quand même très chouette pour les touristes de pouvoir prendre la photo du troupeau ou avec le berger.
Il mieux prendre une photo avec des bergers qu'avec un tire-fesse, quand même. Non.
Mais les deux vont très bien chose. Ensemble. Ouais. Par exemple, sur les stations de ski.
Oui, à part que quand même, les animaux dans une montagne... entretiennent le paysage, je veux dire, ils sont pas que un décor.
Mais le paysage, c'est qu'il a à vendre aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est important de garder des belles étendues ouvertes parce que c'est joli et que si c'était tout fermé par la forêt, ça serait moins intéressant. Mais c'est que l'utilité même de ces métiers-là, enfin, pas leur utilité, mais l'absurdité plutôt dans laquelle se trouvent ces professions-là, elle est à mettre en avant. C'est-à-dire que les éleveurs, ils sont subventionnés par la PAC parce qu'en fait, ils peuvent plus vivre de leur production, que c'est une production qui est organisé par l'État maintenant.
Il y a quand même des tas de troncs de montagne qui sont moins civilisés que ce que vous décrivez quand même. Hein.
Oui,
il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de forêts, où il y a beaucoup d'éleveurs. Enfin, c'est pas que.
Mais ces éleveurs, ils sont même dans des coins qui sont, on va dire, préservés, à l'écart en tout cas de plein d'autres saloperies. Ils sont quand même pris, en fait, ces éleveurs, dans un... Enfin, notamment berger l'été, c'est un métier qui prête beaucoup à l'idéalisation. On va dire tous les randonneurs, quand ils passent à berger,
ceux qui sont,
ils sont le métier du monde, machin. Mais ils sont pris eux-mêmes dans des systèmes où, en fait, tous les éleveurs sont au bord de la faillite, ou alors s'endettent pour travailler 12 heures par jour et gagner 500 balles par mois. Y compris dans ce cadre idyllique. Du coup, c'est ça qu'on met en avant, puis on essaie de mettre en avant les résistances, surtout qu'il y a à ça, et les luttes qui peuvent être menées notamment dans celui-là, numéro, il y avait un entretien avec quelqu'un du collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes, qui existait depuis 2 ans. Enfin, Ouais, on essaie, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant plutôt que de dire bon, il y a des endroits qui sont pas. Il y a des endroits qui sont préservés. Même préservés, ils font partie de cet ensemble-là en fait. C'est pareil par exemple dans la gestion de la forêt, enfin, dans les trucs de l'ONF, ils vont rendre certaines zones intouchables pour faire des espaces vierges, on va dire, enfin en tout cas préservés, dans le même temps qui dealent des parcelles de forêt avec des entreprises forestières qui vont faire des coupes rases ou avec. C'est-à-dire que c'est toujours les. On préserve pour aussi certains espaces pour mieux exploiter d'autres. Enfin, c'est toujours dans cette dynamique-là un peu.
Mais pour rebondir là, sur ta remarque, là, évidemment tous les éleveurs et bergers sont pas assujettis au système touristique, hein, mais bien mais que même par exemple les Vosges, qui est un coin paumé où personne va beaucoup, quoi, il y a les mêmes processus en cours, c'est-à-dire qu'il faut créer des produits du terroir pour les vendre, il faut les labelliser, il faut organiser cette production, etc. Et même en faire une valeur pour le territoire, si tu veux. Quoi. Là, on a le dernier exemple avec les Vosgiennes, quoi, avec des réimplantations de races de vaches dans les Vosges, parce qu'en fait, il faut reproduire, et même la création de fromages qui n'existaient pas traditionnellement, on peut dire. Donc, ils sont des pures inventions.
Et là, effectivement, acheter des produits du terroir, on va avoir l'impression de donner la main, de soutenir les gens qui sont restés dans le coin pour travailler. Et nous, en tant que consommateurs, même si on va dans une épicerie, je sais pas quoi, associative, je sais pas quoi, le truc, c'est de se dire, au lieu d'aller au supermarché, je vais acheter cette farine, ce fromage, machin, qui sont produits par des gens du coin, c'est des bons produits, etc. Mais ce que vous soulignez là, ce qui est intéressant, c'est que ça participe aussi à l'organisation économique du pays, du territoire, quoi. Il y a ce truc en plus que là, moi, je rejoins avec le tourisme, c'est ces espèces de d'étiquettes par terroir, quoi. Ici, on est sud de France, avec tous ces nouveaux machins là qui apparaissent.
C'est dans ce sens-là que le tourisme peut pas être critiqué en tant que tel. Ben c'est oui. Dans le cadre du capitalisme qu'il faut critiquer le tourisme.
C'est un outil du système.
Mais comme ici à 7, ils vous font du tourisme télévisuel. Tu vois de quoi je parle. Quoi. Ah, ouais. c'est une autre forme. Quoi,
de, oui, comme ça, ça participe de la même façon.
Oui. C'est le même schéma. Mmh. C'est le même schéma.
Mais je pense, sur ce que tu dis, en effet, je pense qu'en fait, il y a une niche pour le capitalisme là-dedans, dans la consommation de produits qui seraient plus locaux, plus sains, plus. Parce qu'en fait, quelque part, il y a une vraie demande, ou en tout cas, il y a une vraie, je sais pas comment dire, conscience de plus en plus partagée de. Perte de sens un peu dans l'alimentation, qu'on bouffe des trucs qui détruisent la planète, qui détruisent notre santé et qui viennent de. Dont on ne sait pas comment ils sont faits, machin. Et du coup, y a une niche pour. Et du coup, on va venir créer des produits de toutes pièces qui seront des produits terroirs. Et on va créer des circuits de commercialisation, on va créer
des marques.
Des marques, pour répondre, et on va créer des cahiers des charges pour les agriculteurs et les éleveurs, et des normes qui vont garantir en fait une sécurité aux consommateurs en disant que ça a été fait selon le label AB ou je ne sais quoi, et qui sont toujours qui vont toujours profiter aux grands groupes, enfin si on parle de l'agriculture, qui vont toujours profiter à ceux qui auront les moyens d'acheter le matériel qui permettra de respecter ces normes, de respecter les process là, de production, tout ça. Et en fait, cette confiance dans la normalisation du produit et tout ça, elle vient remplacer en fait juste l'interconnaissance en fait, de savoir que. C'est mon voisin, il fait ça comme ça, je suis déjà passé chez lui. Enfin, et de toute façon, même s'il n'y a pas de rien qui me garantit son process de fabrication, comme on se connaît un peu, je suppose qu'il voilà, qui fait les choses. Et du coup, ouais, voilà, c'est cette dynamique-là qui touche l'agriculture et l'élevage.
Ce qui a vraiment commencé, c'est contre le puçage des brebis.
N'importe quelle montagne.
Oui, c'est autant des Pays Basques aux Hautes-Alpes, il y avait des collectifs contre le puçage qui s'étaient créés.
Qui viennent beaucoup des luttes anti-OGM des années 90, début 2000.
Et avec ce truc-là qui est un peu plus ou moins périclité, quoi, ces collectifs contre le puçage, parce qu'il y a eu des espèces de fausses victoires, quoi, donc des trucs. Il n'y avait pas une obligation de puçage, mais chacun pouvait pucer s'il voulait ou pas, enfin des trucs qu'on. Et puis bon, la Confédération Paysanne qui a quand même bien flouté les cartes. Et du coup, un peu suite à ça, il y a des gens qui se sont retrouvés autour d'un collectif qui s'appelle Hors Normes, avec l'idée d'aller plus loin que juste la critique du puçage, mais de critiquer la traçabilité déjà des produits. Donc tout ce qu'on disait là, en fait, ce qui fonde la logique de la norme en France, c'est les scandales alimentaires, quoi. C'est-à-dire que c'est là-dessus que se base l'État, par exemple la vache folle, pour dire il faut que la vache en suive son parcours de l'élevage au supermarché, quoi. Et du coup, qui permet à l'État d'instaurer un certain nombre de normes et de contrôles qui vont avec. Et du coup, ces personnes-là qui sont éleveurs ou agriculteurs, quoi, ont monté ce collectif pour essayer de s'organiser sur cette question-là. Donc ça va de plusieurs choses. Ça peut être de se retrouver à 200 sur une ferme pour faire peur au contrôleur quand il arrive, pour vérifier si la fromagerie, c'est bien une fromagerie. Ça peut aller de...
C'est le refus de l'abattage aussi.
Du refus de l'abattage industriel et d'abattre à la ferme, d'aller occuper, que ce soit la chambre d'agriculture ou diverses autres institutions liées à ces métiers-là, etc., quoi. Où il y a donc un peu une dynamique... Dans les milieux d'éleveurs, agriculteurs, c'est très récent. Le collectif, il s'est créé il y a 2 ans.
De la même manière, il y a aujourd'hui des producteurs de plantes ou d'herbes qui sont attaqués systématiquement par l'industrie pharmaceutique, qui on conteste, on conteste la commercialisation de ces produits, quoi. On les avait rencontrés il y a pas longtemps.
Il y a un article dans le numéro 1, c'est celui-ci, sur des gens des Cévennes qui avaient été attaqués parce qu'ils vendaient certaines plantes en biocoop qui étaient encore sous monopole pharmaceutique.
En tout cas, vous constatez quand même une vraie résistance par rapport à ça, ou c'est très très marginal?
Je pense que c'est quand même très marginal.
C'est plutôt marginal. Après, la chose intéressante dans ce collectif, c'est qu'ils sont... ni Conf ni FNSEA, quoi, avec une position un peu de dire on veut pas faire comme la Confédération Paysanne, défendre une agriculture de pratique, quoi, c'est-à-dire défendre que ceux qui ont une agriculture bio on peut dire marginale.
Mais ils sont d'ailleurs pour les normes.
Dans les réflexions de ce collectif là, les premiers concernés par les normes et puis les suicides, en fait, il y a quand même un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, c'est quand même une sacrée pression et du harcèlement quand même assez fou. Et du coup, d'avoir ce truc-là, de dire, en fait, on va pas défendre un mode de production. On va pas dire, c'est mieux de faire bio que conventionnel. Parce qu'en fait, il y a certains éleveurs ou agriculteurs qui sont de toute façon pris dans ces logiques-là. C'est-à-dire que ça dépasse même, eux, leur volonté propre, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, la production alimentaire, c'est une production... national, quoi, organisé par l'État, et que dès qu'on est éleveur et qu'on commence à prendre les subventions PAC et qu'il faut racheter un tracteur et racheter une machine à traire et puis après racheter les antibiotiques, sinon on nous enlève tel truc et puis racheter tel produit, et en fait tu te retrouves vite à brasser des centaines de milliers d'euros de flux, quoi, c'est-à-dire de faire rentrer de la bouffe de merde, des médicaments de merde et des machines pour traire, et à sortir des thunes pour acheter tout ça. Et qu'en fait, les éleveurs se payent pas, quoi. Enfin, qu'il y a la plupart de ce qu'on appelle les conventionnels, quoi, sont des gens qui se tirent un RSA sur leur exploitation, qui pourtant génèrent peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, quoi. Et qu'en tout cas, donc là, il y a ce positionnement qui est un peu original, en tout cas, dans ces luttes-là. De dire, en fait, on va pas défendre que les gens qui font du bio ou que les gens qui ont des pratiques qu'on considère comme saines ou logiques. On va essayer de se battre, en fait, face aux normes et face à l'État qui les impose, quel que soit notre pratique de ces métiers-là. Quoi.
Ouais, et du coup, est-ce que ça dépasse le milieu montagnard? Est-ce que ça va
Un des endroits où ça a été pas mal actif, c'est dans le Tarn, le collectif hors Marne.
Et après, c'est vrai que sur la question du tourisme, en tout cas des travailleurs du tourisme, il y a très peu d'organisations politiques. Quoi. Une absence complète, les syndicats se limitent à faire des caravanes dans les stations pour distribuer des cendriers de poche, quoi. C'est pas une blague. Et qu'il y a très peu d'organisations collectives dans l'industrie touristique. C'est lié au fait de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui viennent là pour 3 mois, à l'image du métier de saisonnier aussi. Et, le bon plan, quoi. Tu fais 3 mois de saison, puis après tu pars 3 mois en vacances. Enfin, cette représentation, du coup, qui bride aussi les velléités de conflictualité.
Okay, qui est très intégré chez les travailleurs saisonniers. Et associé aussi à une mise en avant qui est encouragée hein, par les patrons, mais qui n'ont pas besoin d'insister beaucoup, une mise en avant de la productivité. Et que ce soit dans les saisons touristiques ou agricoles, il y a vraiment je fais une station de ski, les gens se parlent le soir de combien ils ont chargé de personnes sur le télésiège, parce qu'il y a des compteurs qui vont. Et que c'est quelque chose qui prend énormément de place. Et qui est lié, je pense, au fait de. Ben en fait, on vient en saison, c'est pour bosser, pour faire des heures, pour bosser dur, parce que on va faire un max de fric pour après partir en vacances. Et c'est pareil dans les saisons agricoles où c'est les premiers qui ont fini leur ligne, machin, alors qu'on les paye à l'heure.
Et après, le dernier truc, c'est aussi, mais comme dans plein de métiers, quoi, le truc de. Alors, je sais pas comment on peut dire ça sans utiliser un terme anglophone, mais un peu le truc qui a de plus en plus d'indépendants. Enfin, où il y a plein de gens qui se disent je refuse le salariat, je veux pas avoir de patron, je veux être mon propre patron, créer ma propre activité. Et du coup, par exemple, il y a tout un tas de personnes qui vont travailler en tant que moniteur dans les canyons, en tant qu'accompagnateur en moyenne montagne, en tant que qui sont des saisonniers qui ne se considèrent pas comme salariés parce qu'ils ont créé leur propre activité et qui décident eux-mêmes quand ils travaillent, blablabla. Mais qu'en fait, qui tendent juste à faire oublier que c'est des saisonniers comme les autres et qu'ils ont en fait les mêmes conditions de travail, même souvent pire, même comparé avec les auto-entrepreneurs. Je pense que c'est l'analogie la plus facile dans le bâtiment où ça a l'air cool comme ça de se dire mais je ne veux pas avoir un patron, je ne veux pas être ouvrier, je peux très bien bricoler des trucs tout seul, mais qu'en fait, tu t'auto-exploites d'autant plus, quoi. Et du coup, ça aussi, ça freine les organisations collectives qu'il pourrait y avoir, parce que les gens se considèrent différents. Quoi. Mmh. Toi, t'es saisonnier salarié, moi, je suis indépendant, j'ai mieux réussi, et du coup, on n'a pas les mêmes problématiques, etc. Quoi.
Et c'est très dur de sortir du... ce que tu disais tout à l'heure, Cyril, de l'image qui est collée à ce métier et qui est intégrée par les personnes qui le font aussi. C'est un métier loisir, un métier vacances ou un métier passion ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, charger des gens sur un télésiège, c'est comme bosser à la chaîne. Enfin, la vue est vachement plus sympa. Mais
et après, ça, tu parles de saisonnier, c'est-à-dire il y a ces gens qui travaillent pendant les saisons de sport d'hiver, j'imagine, mais qui ensuite continuent de travailler localement dans une exploitation ou des choses comme ça. Parce que là, tu disais des gens qui viennent travailler 3 mois pour partir en vacances après, mais est-ce que c'est vraiment une réalité ou c'est des gens qui ont un complément de revenus parce que leur exploitation agricole ne suffit pas?
Enfin, je pense que ça dépend où.
Est-ce que c'est assez différent?
Ça dépend où. Là, moi, je bosse en plus dans le Jura, c'est quand même la moyenne montagne, la saison n'est pas très longue. La plupart des gens sont sur place à l'année. Oui, c'est une activité parmi d'autres qu'ils font. Je pense qu'il y a d'autres endroits, notamment dans les grosses stations des Alpes, où il y a une part beaucoup plus importante de gens qui viennent pour la saison. Mais la saison qui dure 4-5 mois. Enfin,
Oui, puis c'est une génération aussi de jeunes, enfin il me semble, je sais pas, peut-être il y a... Du coup, qui effectivement vont accepter l'exploitation parce qu'après ils vont... Enfin, que du coup ils coupent leur année en deux, ou que du coup ils vont après partir, oui, effectivement, à l'autre bout du monde, avec leur chômage, ou bosser à l'usine. Enfin, moi, je vois, j'ai vécu à Grenoble, vers Annecy, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans les usines. Et puis, ils arrêtent, ils font beaucoup d'intérim, ils arrêtent. Après, ils font les saisons. Et après, en fait, du coup, c'est vrai que jamais ils se questionnent, pas jamais, mais en tout cas, ils se questionnent pas beaucoup sur leurs conditions de travail parce qu'ils sont en même temps dans ce précariat, mais qui s'appelle plutôt, intérim, quoi, et une forme de liberté, mais en même temps, jusqu'à un moment où. Où t'es plus jeune et où tu dis qu'est-ce que je fous enfin, pas de boulot et j'en ai marre de faire les saisons et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de but, en station.
Bah non, je pense que c'est parce que il y a un rapport au temps qui est particulier, tout de la saison qui est.
Bien sûr, t'es épuisé,
t'es là pour la saison et du coup tu noues des relations aussi qui dont la durée est déjà déterminée en fait. Il y a quelque chose de très futile dans la saison.
C'est ça.
Après, les gens qui partent sur autre chose et qui ont l'habitude en fait de.
Tu bourres la gueule tous les soirs et tu retournes et puis c'est cool et puis t'es épuisé quand même et tu t'es.
De toute façon, tu fais 2, 3, 4 tafs dans l'année.
Oui, ça change tout le temps aussi, c'est ça. Donc il y a un truc d'adaptif. Tu t'adaptes aussi tout le temps. Mais il me semble que quand t'as 50 balais, t'as peut-être plus la même énergie pour supporter ça, quoi.
Mais après, c'est pas forcément très différent dans les autres milieux de travail, quoi.
Moi, notamment l'intérim.
L'intérim ou les CDD de remplacement ou les contrats saisonniers, moi j'ai l'impression que dans les boulots que je fais, c'est quand même super rare d'entendre des critiques un peu de fond de ce qu'on fait là, du quotidien, j'ai l'impression que c'est quand même assez général comme mouvement dans la société actuelle qu'il n'y ait pas de remise en cause du travail et que c'est pas forcément quelque chose de caractéristique des saisonniers, quoi. Parce que ce truc de par exemple faire 6 mois et se barrer 6 mois à l'autre bout du monde avec ton chômage, les gens le font à l'usine aussi. Ils font 6 mois d'intérim et puis ils vont en Amérique latine pendant 6 mois, ils reviennent, ils refont 6 mois d'usine.
Avec la particularité quand même que le tourisme c'est un métier d'accueil où le sourire est obligatoire, quoi. Enfin, où il faut paraître bien, avoir un discours positif sur tout, enfin, sur la vallée, sur ton job pourri, etc., quoi. Mais il y a ce truc là des gens qui viennent te voir, alors vous devez être trop bien ici, et puis tu vois, t'es dans l'accueil, tu leur fais payer la caisse, tu leur fais sortir leur billet, mais il faut que tu leur échanges un sourire, et du coup ça freine vachement en fait la possibilité de dire non, mon taf il est pourri, mes conditions de logement, parce qu'on a parlé des conditions de travail,
les conditions de logement elles sont dégueulasses en
mais sur le tourisme on l'a vu cette année, quoi. Ouais. Et Courchevel, mais il y a quand même des trucs qui sont juste désastreux, quoi. Ouais. Voilà, cette année c'était Courchevel, il y a quelques années c'était la Clusa où il y avait des gens qui étaient morts dans leur camion, quoi, et juste pour des grosses stations comme Courchevel, c'est juste hallucinant, quoi. C'est 5000 saisonniers, c'est des gens qui sont logés dans des ça part pourri, quoi. Enfin, le témoignage qu'il y a eu là sur cet immeuble qui a pris feu, c'est assez effarant, quoi. Et alors qu'à côté, les patrons s'en mettent juste des millions, quoi, dans les poches, quoi. Mais pourtant, il n'y a pas eu de gros mouvement de solidarité face à ça, quoi. Enfin, il n'y a pas eu une explosion dans les stations de ras-le-bol, etc., quoi.
C'est quand même ce système qui est super bien organisé. De quelques bords que tu vois, parce que là tu te dis en fait ils donnent l'illusion, c'est des jeunes souvent, hein, comme tu disais, arriver à 50 balais, être saisonnier, c'est autre chose, mais c'est quand même beaucoup de jeunes qui trouvent pas de taf, qui ont l'illusion qu'en faisant des saisons comme ça il va y avoir une forme de liberté de choisir son taf, et puis avec l'idée que quand t'as 20-25 ans, que tu t'embarques dans un taf, tu penses que ça va être jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'on appelait la retraite. Mais là, tu te dis, tu vois le bout du boulot, tu bosses 3 mois ou 6 mois, puis t'arrêtes. Et ça, c'est un truc quand même par rapport au boulot. C'est avoir la sensation que c'est toi qui maîtrises ton temps de travail et qu'après, tu vas vivre ta vie, tu vas faire tes choix librement. Et ça, ce système, mais c'est incroyable, quoi.
Donc le capitalisme a même récupéré l'oisiveté, quoi.
C'est ça. C'est ça.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà en nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.